Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 6 Aban, 1400 du calendrier iranien, 28 octobre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran rejoindra les pourparlers sur la levée des sanctions avant la fin de novembre, selon le haut négociateur iranien. La levée des sanctions, l'objectif principal des prochains tours des négociations. L'Iran appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique à mettre fin à des fuites de données confidentielles du programme nucléaire iranien. Un nouveau signe des tensions diplomatiques entre le Liban et l'Arabie saoudite. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré à Press TV que la levée des sanctions sera l'objectif principal des négociations à venir avec les parties à l'accord nucléaire de 2015. Ali Baridi Kani a déclaré que l'Iran a une logique forte et c'est sur la base de cette logique qu'il a entamé les négociations. Le haut négociateur iranien a déclaré que pour l'Iran, certaines parties sont écartées de la table, soit en violant l'accord, soit en ne respectant pas leurs obligations liées au pacte multilatéral nucléaire. Les pourparlers devraient reprendre fin novembre. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. L'Iran a critiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, pour avoir publié des informations techniques détaillées et confidentielles sur son programme nucléaire. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré qu'une telle décision allait à l'encontre des articles sur la confidentialité des statuts de l'AIEA. Kamalvandi dit que l'Iran est le seul pays dont les données sensibles et confidentielles ne cessent d'être publiées par l'agence. Il soutient que de tels détails sont utilisés pour jeter le doute sur les activités nucléaires de la République islamique d'Iran. Il s'agit d'une initiative contre-productive devenue routine au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont l'objectif est de mener une guerre psychologique et médiatique contre l'Iran. Téhéran a protesté à plusieurs reprises contre cette question, dans différentes circonstances et à différents moments. Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a condamné la présence de forces étrangères en Syrie, affirmant qu'elles doivent quitter le pays sans aucune condition préalable et sans délai supplémentaire. Majid Tartaravanchi a également qualifié les attaques d'Israël contre la Syrie de violations flagrantes du droit international. Il a réaffirmé que Damas avait le droit de répondre aux actes d'agression de Tel Aviv. L'ambassadeur iranien a en outre dénoncé un récent attentat terroriste dans la capitale syrienne Damas qui a fait 14 morts. Tartaravanchi a estimé que l'attentat à la bombe montre que la lutte contre les groupes terroristes en Syrie doit se poursuivre sans relâche. Une forte réprimande du ministère libanais de l'information pour l'Arabie saoudite à propos de sa guerre contre le Yémen suscite la controverse. Dans une récente interview, Georges Kordahi a qualifié la guerre saoudienne contre le Yémen de futile, ajoutant que les forces de la résistance yéménite Ansar Allah ne faisaient que défendre leur patrie contre une agression extérieure menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il a également fustigé la coalition d'agression dirigée par Riyad pour avoir bombardé des maisons civiles, des funérailles et des mariages, affirmant que l'agression devrait cesser. En réaction, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït n'ont pas tardé à convoquer les ambassadeurs du Liban en signe de protestation. L'Arabie saoudite, soutenue par les États-Unis et leurs alliés régionaux, a lancé la guerre contre le Yémen en mars 2015 dans le but de ramener au pouvoir le gouvernement démissionnaire de l'ancien président yéménite Mansour Hadi. Un responsable du ministère des Affaires étrangères du régime de Tel Aviv a annoncé l'approbation finale de la construction de 1 800 maisons de colons et l'approbation préliminaire de la construction de plus de 1 300 maisons supplémentaires pour les colons israéliens. L'Organisation de libération de la Palestine a condamné les projets d'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, la qualifiant d'incarnation de l'hostilité d'Israël. Plus tôt, les groupes de la résistance palestinienne ont publié une déclaration commune mettant en garde le régime israélien contre la poursuite de ses plans de construction de colonies. Les groupes ont souligné qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux crimes d'Israël et à la profanation des lieux saints dans les territoires occupés. Toutes les colonies israéliennes sont considérées comme illégales en vertu du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Un prisonnier saoudien de la communauté chiite a été libéré après avoir passé près de 9 ans derrière les barreaux. Ali Al-Nimr était en prison depuis 2012. À l'époque, il n'était qu'un enfant et a d'abord été condamné à mort avec 2 autres citoyens chiites mineurs, car ils étaient accusés d'avoir participé à des manifestations antigouvernementales. La peine de mort de Nimr a ensuite été commuée en peine de prison. Le royaume saoudien a annoncé en 2020 que les détenus de moins de 18 ans ne seraient pas condamnés à mort. Ali est le neveu du religieux chiite, le martyr Nimr al-Nimr, exécuté par l'Arabie saoudite il y a 5 ans. Et enfin, les premières mesures de rétorsion infligées par la France à la Grande-Bretagne dans son conflit sur les licences de pêche post-Brexit entreront en vigueur mardi, a annoncé le gouvernement français. Ces mesures consisteront en des contrôles douaniers et sanitaires et des interdictions de débarquement. Déjà mercredi, 2 navires anglais ont été verbalisés au large du Havre. La menace a été brandie à maintes reprises ces dernières semaines, faisant chaque fois monter la tension entre Paris et Londres. Cette fois, les sanctions sont imminentes. une partie des mesures de rétorsion infligées par la France à la Grande-Bretagne entreront en vigueur dès le 2 novembre, sauf changement de la politique britannique avant cette date, a annoncé le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal. Londres affirme qu'il enquête sur l'incident de la verbalisation. Les tensions couvrent entre les deux voisins au sujet des accords commerciaux post-Brexit et la pêche reste une pomme de discorde. La France demande davantage de licences pour que ses navires accèdent aux eaux britanniques. Il menace même de bloquer les bateaux britanniques dans ses ports et de renforcer les contrôles de sécurité sur ses camions s'il n'y a pas d'accord d'ici la semaine prochaine. La Grande-Bretagne se dit déçue de la décision de Paris, la qualifiant de violation des accords commerciaux et du droit international. Le haut négociateur iranien pour les pourparlers relatifs à la levée des sanctions illégales des États-Unis contre la République islamique d'Iran a déclaré que Téhéran rejoindrait les négociations avant la fin de novembre. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Boredi Khani, a annoncé cette décision de la diplomatie iranienne dans un tweet à la suite de discussion avec Enrique Mora, chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne, mercredi à Bruxelles. Boredi Khani a écrit qu'il avait eu un dialogue très sérieux et constructif avec Enrique Mora sur les éléments essentiels pour des négociations réussies. Nous sommes d'accord pour entamer les négociations avant la fin de novembre. La date exacte sera annoncée au cours de la semaine prochaine, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont réintroduit les sanctions contre la République islamique d'Iran en 2018 après avoir quitté le plan global d'action conjoint, un accord portant sur le programme nucléaire civil de l'Iran qui avait levé les sanctions économiques inhumaines et cruelles en échange de certaines restrictions volontaires sur le programme d'énergie nucléaire pacifique de l'Iran. Après une année de patience stratégique, l'Iran a recouru à ses droits légaux stipulés à l'article 26 du plan global d'action conjoint qui accorde à chaque partie le droit de suspendre ses engagements contractuels en cas de non-respect par d'autres signataires de leurs engagements et de renoncer à certaines des restrictions imposées. L'Iran et les pays signataires du plan global d'action conjoint ont tenu 6 séries de pourparlers à Vienne, capitale de l'Autriche, qui ont commencé après que l'administration américaine de Joe Biden a exprimé sa volonté de rejoindre l'accord nucléaire afin d'examiner la perspective d'une nouvelle suppression des sanctions américaines réimposées à l'Iran sous la présidence de Donald Trump. Les pourparlers ont toutefois été suspendus à l'approche des élections présidentielles iraniennes en juin, afin que la République islamique d'Iran puisse traverser une période de transition gouvernementale. L'affirmation de M. Ali Boredi Khani concernant l'intention de l'Iran de rejoindre les négociations est intervenue bien que certains médias américains aient précédemment affirmé que la République islamique d'Iran avait rejeté une proposition de réunion de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne. Plus tôt mercredi, une autre source proche des délégations diplomatiques à Bruxelles, en Belgique, a rejeté les affirmations des médias américains selon lesquelles l'Iran avait répondu négativement à une réunion avec des représentants du trio européen, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Selon la source, qui s'adressait à Press TV sous couvert d'anonymat, la République islamique d'Iran s'est officiellement déclarée prête à des pourparlers directs avec les trois parties européennes du plan global d'action conjoint.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va en fait aborder ces réunions ministérielles consacrées à l'Afghanistan qui se déroulent actuellement à Téhéran, la capitale iranienne. Et les ministres des Affaires étrangères et des pays voisins de l'Afghanistan, plus ceux de la Russie et de la Chine, participent par visioconférence à cette réunion ministérielle consacrée à l'Afghanistan. Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a en fait de souligner que les talibans devront assurer la sécurité du pays et combattre le terrorisme. Il a en fait précisé que c'est du devoir des talibans d'assurer la sécurité du pays et de combattre le terrorisme. Hossein Amir Abdollahian, le chef de la diplomatie iranienne, a également fait allusion à cette occupation de l'Afghanistan par les États-Unis il y a presque 20 ans. Et les États-Unis, a-t-il précisé, ont en fait lancé cette agression contre l'Afghanistan sous le prétexte de combattre le terrorisme. Et 20 ans plus tard, ils ont fui le pays et ils ont mis en fait le peuple afghan et les pays voisins de l'Afghanistan, le monde entier, devant, si vous voulez, la situation actuelle. Et les autres intervenants aussi ont appelé à la nécessité, si vous voulez, de soutenir l'Afghanistan, à la nécessité pour l'Afghanistan d'aller vers la formation, la mise en œuvre d'un gouvernement inclusif. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux des invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, maître Develet, est avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est un analyste politique et spécialiste français des questions internationales, un très bon connaisseur des questions relatives à l'Iran et à notre région, qu'est le Moyen-Orient. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier qui est avec moi pour cette émission depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci, cher M. Norostin. Grande salutation à tous vos auditeurs et bien sûr à Maître Develet, que j'ai le plaisir de voir.
Et Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui.
Merci.
Je vous en prie. Je viens de lancer le sujet, c'est des réunions ministérielles qui se déroulent actuellement à Téhéran, réunion consacrée à l'Afghanistan dans, si vous voulez, le contexte délicat actuel. Quelle en est l'importance, quelle en est la portée, M. Dortiguier?
Eh bien, il y a une portée, en effet, qui est d'abord intérieure à l'Iran et une portée internationale. Portée intérieure, comme l'ont souligné, je crois, le porte-parole des affaires étrangères et aussi, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui ont rappelé que l'Iran a 4 millions de citoyens afghans. J'ai moi-même connu dans le centre de Téhéran des commerçants afghans. Et disons que l'on voit aussi dans la banlieue de Téhéran. Enfin, ceci représente bien sûr un très grand nombre de gens de destin. Et l'Iran, bien sûr, est donc le premier, si j'ai pu dire, touché par ce qu'on pourrait appeler les événements de l'Afghanistan, son occupation, etc. Et vous avez aussi eu, disons, dans le contexte actuel, disons, un certain nombre de menaces terroristes, bien sûr, dissimulées derrière ce changement assez suspect, à mon avis, assez factice, disons, ou artificiel, qui est intervenu en Iran. Ce qui est important, c'est justement cette adresse, c'est-à-dire le fait de s'adresser à la nation afghane en disant que le peuple afghan doit, bien sûr, disons, saisir en main sa destinée et ne pas être passif, c'est-à-dire, disons, s'affirmer comme tel, sorte de autodétermination du peuple afghan. Je crois que c'est cela qui est primordial et permettra, disons, d'échapper à des intrigues intérieures et extérieures surtout. Et, disons, les attentats qui ont pu avoir lieu à l'intérieur de l'Afghanistan contre les personnes et les biens sont évidemment des signes qui sont dramatiques, disons, des signes très sérieux. Je crois que cet appel sera entendu, en tout cas par les Afghans. Je dirais que nous avons le sentiment en Europe ici que ce changement, ce départ des Américains et l'accueil fait aux talibans, sans vouloir juger ou préjuger de leur politique, semble, disons, correspondre à une sorte de diplomatie. Je ne m'étendrai pas davantage, mais je voudrais quand même le souligner par honnêteté, si je puis dire, une diplomatie, je dirais, discrète ou secrète. Et il est temps que, disons, que le peuple afghan lui-même se rende compte, disons, qu'il doit lui-même, ne pas chercher d'aide extérieure, mais chercher d'abord, disons, son énergie en lui-même. Je crois que c'est un appel à la fois moral et politique de la part du ministre des Affaires étrangères iranien, et nous l'accueillons comme tel. Pour nous, c'est un signe d'énergie de la part de l'Iran et en même temps un apaisement qui est nécessaire, car bien sûr il y a des arrière-pensées, je dirais, de la part des Américains qui sont partis en laissant un matériel considérable. Et aussi, il faut le dire, mais sans aucune accusation, simplement c'est un fait positif de la politique, des arrière-pensées aussi chez les voisins de l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, qui ont leurs propres problèmes intérieurs, qui ont leurs propres, évidemment, aussi intérêts économiques et en particulier d'exploitation des minerais, surtout pour la Chine, d'Afghanistan. Alors tout ceci mérite, bien sûr, comme on dit, des conférences, des entretiens, mais surtout la participation entière, c'est ça que j'ai retenu, du peuple afghan.
Maître de Velay, M. Dortiguier vient de le dire, moi aussi, je viens d'y faire allusion, que voilà, il s'agit d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan qui se tient à Téhéran, Maître de Velay. Et c'est un point très, très important, que comme quoi voilà, les deux pays voisins de l'Afghanistan, très particulièrement l'Iran, ont cette volonté, si vous voulez, et d'aider l'Afghanistan, d'aider le peuple afghan à sortir, si vous voulez, de cette impasse, à de trouver, si vous voulez, une solution adéquate, d'aller vers la formation d'un gouvernement inclusif. Il y a également, maître de volée, la participation de la Chine et de la Russie, de ces deux puissances très importantes sur le plan international, membres permanents du Conseil de sécurité, qui participent à cette réunion, à cette manifestation de Téhéran. Et ça aussi, si vous voulez, là, ça rend beaucoup plus important cet événement qui se déroule à Téhéran, maître de volée, n'est-ce pas? D'autant plus que le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdullahian, a souligné devant cette conférence que les États-Unis devront assumer leurs responsabilités quant aux catastrophes survenues, commises au cours de ces deux dernières décennies en Afghanistan, monsieur de Volée.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ajouterais que le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, lui-même, Sergueï Lavrov, a souligné sans embâche que les États-Unis étaient effectivement responsables de la situation et du chaos en Afghanistan et que c'était à eux de mettre, si je puis dire, la main à la poche et de contribuer à réparer, en tout cas à replacer le pays dans le statu quo ante du 7 octobre 2001. Et je ne vais pas revenir sur les circonstances de cette invasion dont les motivations étaient hautement douteuses, puisque jusqu'à ce jour, il n'a absolument été établi aucun lien que l'organisation dirigée par feu Osama Ben Laden n'était en aucun cas responsable pour les actes dont on l'accusait à l'époque. Ce que je souhaiterais souligner, effectivement, et c'est dans le prolongement de ce que le professeur d'Ortiguier disait, c'est que cette conférence à Téhéran intervient vraiment à un moment crucial où tous les pays de la région se penchent sur le chevet du patient afghan, si je puis dire, patient afghan amoché par 20 ans d'occupation et dont, effectivement, en ce qui concerne le retrait américain, hautement suspect, avec un arsenal d'armes absolument effarant. On peut se demander effectivement quelles sont les motivations profondes des Américains quant aux circonstances de leur départ. J'ajouterais à cela qu'il est très important, ça c'est très important de le souligner, c'est que les talibans ont très très bien réagi au discours prononcé par le leader de la République islamique d'Iran il y a de cela quelques jours sur l'importance de la solidarité islamique. C'est important pourquoi ? Parce que visiblement, si on s'en tient à ce qui semble être mis en avant eu égard aux attentats atroces de ces derniers jours en Afghanistan sur des musulmans de persuasion chiite, c'est que les Américains, quelque part, souhaitent reproduire cette fitna artificielle en Afghanistan et, ce faisant, diriger ce narratif intra-confessionnel contre ce qu'ils considèrent comme étant leurs adversaires stratégiques dans la région. En cela, les talibans n'ont pas mordu à l'hameçon, bien au contraire, ce qui semblerait indiquer que l'autorité talibane, peu qu'on puisse la dénommer ainsi, ne va pas tomber dans le piège et au contraire, semble plutôt se diriger pour prendre la main tendue que les pays de la région lui tendent. Et déjà, des gestes concrets ont été effectués. La République islamique d'Iran a livré du pétrole à l'Afghanistan. Les talibans ont manifesté leur désir, leur besoin de pouvoir accéder à du matériel afin de reconstruire les infrastructures du pays. Et je pense que dans un contexte, effectivement, de formation d'un gouvernement inclusif, tout ce qui pourrait porter sur des efforts de déstabilisation, sur des narratifs erronés venant de puissances extérieures à la région, concernant le fait qu'ils seraient eux-mêmes pris pour cible par les milices talibanes et qu'il n'y aurait pas de possibilité de cohabiter au sein du même pays, ce sont ces narratifs qu'il faut combattre et qu'il faut mettre complètement hors d'état de nuire, et cela passe par une coordination effectivement des pays frontaliers à l'Afghanistan de manière soutenue, coordonnée, avec bien sûr, vous l'avez souligné, l'assentiment exemplifié par la présence de monsieur le ministre de la Fédération de Russie à Téhéran, assez pour parler.
Monsieur Dortillier, en fait, Maître de Volley vient de faire allusion à des points importants, de l'importance de cette coordination, de cette coopération, de ces concertations entre les pays voisins de l'Afghanistan plus la Chine et la Russie pour en fait essayer de trouver une solution digne du nom pour l'Afghanistan, le peuple afghan. Maître de Volley a fait allusion également à deux points importants. Le premier point consistait à dire que voilà, les talibans se sont dit prêts à acheter du pétrole iranien s'il y a un accord de la part de Téhéran dans ce sens. Et le point le plus important, l'accueil très favorable qui a été réservé à cette déclaration du leader de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, tenue lors de la conférence de l'unité islamique à Téhéran devant les invités et les participants à cette conférence. L'ayatollah Khamenei qui a insisté sur la nécessité de cette solidarité inter-afghane entre chiites et sunnites. Et cet appel de l'ayatollah Khamenei a été lancé à un moment où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des attentats terroristes qui ont visé les mosquées, si vous voulez, des chiites en Afghanistan. Et dans un tel contexte, le leader de la révolution islamique appelle à la nécessité d'aller vers cette solidarité inter-afghane, inter-musulmane, sunnite et chiite en Afghanistan, M. Dortillier.
Oui, en effet, disons que c'est un appel de bon sens. C'est un appel qui repose sur l'histoire. Il y a toujours eu un lien. Il y a toujours eu un lien d'abord entre l'Iran et l'Afghanistan, un lien que l'on peut estimer aussi que l'on peut juger sur plusieurs plans linguistiques, tribal et autres. C'est-à-dire qu'il y a, une relation de fraternité, relation, disons, naturelle. Et la religion, évidemment, en ce sens, non pas ce qu'on dit les confessions chiites ou confessions sunnites, mais disons, le principe même de la religion musulmane doit être, disons, le socle de l'unité. Socle de l'unité devant les adversaires, justement, qui, eux, veulent déraciner complètement, d'abord, je dirais, toute forme de religion dans le monde. Vous savez, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais on sent très bien qu'il y a, à travers les critiques que l'on fait contre soi-disant le fanatisme aujourd'hui, il y a une critique contre le principe religieux lui-même dans toutes les sociétés. Et donc, il est urgent que les peuples musulmans s'en rendent compte et voient, disons, ce qui les rassemble, et non pas, je ne dis pas ce qui les divise, mais ce qui les rassemble, les tient unis. Cet appel à la fois commune et peut sembler une évidence, mais c'est le propre, justement, et le rôle important du guide de la révolution, que de le dire. Je dirais que ce que Maître de Velay a relevé, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'aspect raisonnable, réaliste de l'équipe au pouvoir aujourd'hui en Afghanistan, me semble exact, si je puis me permettre de juger, bien sûr. Je crois que d'ailleurs que dès le départ, il semble que les talibans, aient pris des contacts très sérieux avec la Russie, la Chine, par exemple, pour pouvoir, justement parler de manière réaliste avec deux puissances également voisines dont on ne peut pas, faire abstraction. Je reprendrai aussi, je m'excuse de dire, je n'examine pas, mais je pense que nos auditeurs doivent également le faire comme moi. Je souligne aussi que l'imposture, quand même, il faut quand même le redire, l'imposture de mêler l'Afghanistan aux attentats du 11 septembre, enfin, tout ceci, bien sûr, est martelé aujourd'hui par les journaux, par l'entrepresse. Mais enfin, disons que ça a été, un des plus grands mensonges du siècle. Et donc, justement, ceux qui sont à l'origine de cette, de cette imposture, évidemment, devront le payer dans ce monde ou dans l'autre. Je le dis ainsi, et ils portent une très grave responsabilité. En ce sens, disons, le sacrifice des uns et des autres, y compris le sacrifice, disons, de ceux qui ont été tués dans cette mosquée l'autre jour, les 53 personnes, ne sera pas vain si justement cela conduit à, disons, un sentiment de fraternité naturelle. De même que nous, ici, nous avons fait l'Europe, si je puis dire, si je puis comparer avec la réconciliation franco-allemande, eh bien, nous devons, dans les pays d'Asie, dans les pays autour de l'Iran, également aboutir à cette même solidarité. Autrement, nous serons victimes les uns et les autres d'aventuriers internationaux, voyez-vous, qu'on les désigne comme on veut. Et je crois que c'est un point très positif, en tout cas, de cette réunion tenue à Téhéran. Je dois dire que la Russie et la Chine ont fait preuve, quel que soit le jugement qu'on puisse avoir, j'en ai un aussi, comme tout le monde, sur le système intérieur, surtout chinois, je dois dire que de ce point de vue, la Chine et la Russie se sont montrées réalistes. Et je crois que c'est un élément important pour, disons, maintenir l'équilibre du monde, d'un monde qui en a tant besoin.
Maître de Vaudet, pour reprendre l'expression de M. d'Ortiguier, la Chine et la Russie se sont montrées réalistes quant à la question de l'Afghanistan. Vous avez en fait mentionné le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, son intervention devant cette conférence ministérielle de Téhéran. Sergei Lavrov qui a dit que voilà, il ne faut pas avoir le dialogue pour le dialogue, la conférence pour la conférence, et il faut aller vers des solutions concrète pour l'Afghanistan. Et Maître de Vaudet, cette réunion ministérielle de Téhéran fait suite à l'adhésion de l'Iran à l'organisation de coopération de Shanghai qui regroupe la Chine, la Russie, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran et certaines ex-républiques de Soviétie. La coopération dans l'union de coopération de Shanghai également est, si vous voulez, à son importance et d'une importance primordiale pour aider le peuple afghan, l'Afghanistan, le peuple afghan à, si vous voulez, comme l'a dit M. d'Ortiguier tout à l'heure, à prendre en masse, à dessiner son destin, Maître de Vaudet, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Je pense que le dossier afghan, tel qu'on peut le définir de manière large, sera justement l'occasion pour l'organisation du groupe de Shanghai d'exprimer la pleine mesure de son influence politique, mais aussi économique et géostratégique. Un vide politique a été laissé par la fuite précipitée des Américains, si je puis dire, de ce pays, en le laissant dans un état de délabrement sans nom. Hein. On peut presque parler quelque part de l'Afghanistan année zéro. Et je pense qu'au travers du prisme de ce dossier, l'organisation en elle-même a l'opportunité unique, et je dirais en cela qu'il n'est pas un hasard que le secrétaire général des Nations Unies, M. Gutiérrez, ait lui-même donné son imprimatur à la réunion qui a cours actuellement à Téhéran. Dans ce contexte-là, être noté comme étant d'une signification particulière. L'ONU a vocation à ordonner le monde, si je puis dire, et dans ce contexte-là, il est très encourageant de voir que les parties régionales frontalières avec l'Afghanistan, bien sûr, mais vous l'avez souligné, l'essentiel des membres du groupe de Shanghai est avec l'imprimatur de l'ONU, tout s'emboîte parfaitement. Il s'agit maintenant de rester coordonné dans l'action sur le dossier. C'est un dossier qui va certainement requérir beaucoup d'énergie et beaucoup de travail diplomatique et, si je puis dire, de consultation pour un certain temps, parce que la tâche est immense. Mais dans le contexte que l'on connaît d'une recomposition et d'un changement de gravité dans les affaires internationales, on ne peut pas sous-estimer effectivement l'importance que le groupe de Shanghai, au travers de ce dossier, pourra avoir pour prendre sa place pleine et entière dans le concert des nations.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Vaulé, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Et mes vifs remerciements vont également à vous, Pierre d'Ortiguier, Monsieur Pierre d'Ortiguier, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Attentat à Damas. Le spectre de la guerre hante toujours la Syrie. L'armée syrienne a été ciblée par un attentat en plein cœur de la capitale. La riposte a été immédiate avec un bombardement à Idlib. Alors que la Syrie cherche coûte que coûte à officialiser son grand retour, elle reste engluée dans une guerre larvée. La Syrie est en deuil. Dans la matinée du 20 octobre, alors qu'un bus militaire transportait des soldats syriens, deux bombes ont explosé à son passage en plein cœur de Damas. Le bilan est lourd. L'attentat a fait plus de 14 morts et plusieurs blessés. Les artificiers de l'armée ont déminé un troisième engin explosif. La capitale syrienne renoue ainsi avec ses vieux démons. Depuis la reprise des derniers faubourgs en 2018, Damas était relativement épargné. Il faut en effet remonter à mars 2017 pour voir une série d'attentats aussi sanglants. L'attaque a été revendiquée par les brigades Rassioun. L'organisation terroriste a indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle poursuivrait ses opérations dans les zones contrôlées par le gouvernement en réponse au massacre quotidien commis par le régime syrien et ses milices dans le nord libéré, en référence à la dernière poche takfiriste d'Idlib, selon le texte du groupe terroriste. Le ministre adjoint syrien des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Soussan, a pour sa part affirmé que la Syrie poursuivrait la lutte contre le terrorisme sur ses territoires jusqu'à l'élimination définitive de ce phénomène. Il a assuré que de tels actes n'entraveraient pas les efforts visant à consolider la stabilité du pays. La réponse de Damas à l'attaque terroriste à Damas ne s'est pas fait attendre. Peu de temps après, l'aviation syrienne a ciblé la province d'Idlib dans le nord-ouest du pays. Ces événements montreraient que la guerre en Syrie, loin d'être terminée. C'est une guerre d'usure. Aujourd'hui, c'est une question de temps avant l'opération à Idlib, peut-être dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais tôt ou tard, la bataille sera livrée, prédit Fahed, ancien militaire de l'armée syrienne et ancien otage des takfiristes durant le siège d'Alep en 2012-2013. La zone est encore principalement contrôlée par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, issu du front al-Nusra, également soutenu par Ankara. Via sa présence dans la région, la Turquie cherche à maintenir son influence en Syrie. Damas a à plusieurs reprises appelé l'État turc à quitter son territoire estimant que la cause principale du problème d'Idlib est l'occupation turque et son soutien aux takfiristes. Malgré l'accord russo-turc pour la préservation du statu quo dans la province du Nord-Ouest, Ankara préparerait le terrain. Le 21 octobre, la Turquie aurait fait rentrer un convoi comprenant des véhicules chargés d'armes, de munitions et de matériel logistique, rapporte l'agence de presse syrienne Sana. C'est un impératif pour la Syrie de récupérer cette région et il en va d'un intérêt surtout économique. Alep, la plus grande ville du nord, est coupée du littoral. L'autoroute M4, qui relie Alep à Latakia, passe par Idlib, indique l'ancien militaire syrien. Mais pour l'instant, le gouvernement syrien aurait d'autres priorités. L'armée continue d'opérer à Dera, où elle ratisse. Elle surveille pour éviter que des cellules takfiristes ne se reforment, ajoute Fahed. Depuis la reprise de la province sud du pays le mois dernier, les soldats syriens ont commencé les missions de ratissage dans les villages environnants. Ils fouillent les habitations et traquent les derniers takfiristes dans la zone. Le but est de pacifier entièrement le territoire, a-t-il souligné. Cette escalade de la violence, le retour des attentats à Damas, les tensions palpables à Idlib, contrastent avec la volonté du gouvernement syrien de tourner définitivement la page de la guerre civile. Depuis plusieurs mois, la Syrie est en passe d'officialiser son grand retour sur l'échiquier régional. Entre l'ouverture de la frontière avec la Jordanie, la participation à un projet gazier local, l'envoi de délégations à l'étranger et l'allègement progressif des pressions économiques américaines, tous les signaux sembleraient au vert. Mais le roi de Jordanie, Abdallah II, ancien soutien de la rébellion syrienne, a fait volte-face. Le 3 octobre, au cours d'un entretien téléphonique avec Bachar el-Assad, le souverain hachémite l'a assuré du soutien de la Jordanie aux efforts visant à préserver la souveraineté, la stabilité et l'unité territoriale de la Syrie. De surcroît, Mohammed ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi et homme fort des Émirats arabes unis, a discuté le 20 octobre avec le président syrien pour renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Aujourd'hui, on remarque que les choses sont en train de bouger avec nos voisins. Il y a un retour progressif du commerce avec la Jordanie et avec l'Irak, et les pays du Golfe Persique comprennent qu'ils devront composer avec la Syrie de Bachar el-Assad, résume l'ancien militaire syrien. Mais pour revoir véritablement la réintégration de la Syrie dans l'espace régional, il y a encore du ménage à faire. La capitale afghane s'est retrouvée le 21 octobre plongée dans le noir après une explosion qui a frappé une ligne à haute tension, un nouveau coup porté au régime taliban. L'État islamique dans le Khorasan, la branche afghane de Daesh, a revendiqué le 22 octobre l'explosion contre une ligne de haute tension qui a plongé Kaboul dans le noir la veille. L'organisation terroriste a affirmé dans un communiqué publié sur ses chaînes Telegram que les soldats du califat ont fait exploser une bombe sur un pylône électrique à Kaboul jeudi 21 octobre afin d'endommager le secteur électrique. La capitale afghane s'est retrouvée jeudi soir plongée dans le noir après une explosion qui a frappé une ligne à haute tension, un nouveau coup porté au régime des talibans. La Compagnie nationale d'électricité a annoncé qu'une explosion avait détruit un pylône électrique dans le secteur de Qala Murad Beg, dans la région de Kaboul, et coupé une ligne d'électricité, provoquant l'interruption du courant dans la capitale de l'Afghanistan et certaines autres régions.